Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Du roi Saül. Et là, on va parler de David. On va parler de David. Ça peut être une suite en soi. Mais j'ai fait un petit graphique derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, ça va être peut-être difficile, enfin vous pouvez pouvoir, pour ceux qui sont le plus près. C'est pour ça qu'il faut toujours venir devant, vous comprenez? On peut toujours avoir des surprises, il peut y avoir des choses qui se passent sur le rétro, le vidéo, comprenez? Alors voilà. Donc la Bible nous enseigne d'une manière très significative, et particulièrement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament également, qu'il y a dans cette humanité, dans la nôtre, trois catégories de personnalités, on pourrait dire, trois catégories d'hommes. Il y a dans, finalement, d'abord l'homme naturel, hein, vous le voyez derrière moi, l'homme naturel, et qui nous est dépeint à travers, tout simplement, un texte que nous avons dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Je voudrais simplement vous situer les références. Et dans cette épître, il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, pardon. Il est dit ceci, mais l'homme naturel, donc je vous ai parlé de l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, les choses spirituelles de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et vous savez qu'avec la nouvelle naissance, nous sommes rentrés dans une autre dimension, c'est que Dieu nous a ouvert l'esprit pour comprendre les choses d'en haut, les choses de Dieu. Et il y a naturellement derrière cette caractéristique, c'est l'homme de l'âme en quelque sorte, c'est anima, en latin anima, l'homme de l'instinct. Voilà, Dieu nous a fait avec un instinct, bon, mauvais, on le connaît, c'est l'homme sans Dieu en quelque sorte. Et cela nous est souligné particulièrement également un autre texte bref, dans tout simplement les Éphésiens, je vous restitue le passage, il est dit ceci, en parlant de l'homme naturel, en parlant des hommes selon l'instinct et la nature, il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, bien que ça n'enlève pas qu'il y ait une intelligence humaine, qui est poussée très loin naturellement, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la vraie connaissance de la révélation des choses spirituelles, l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. La véritable raison, c'est que l'homme ne veut rien savoir de Dieu. Il ne veut pas connaître. Ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est la terre. C'est tout simplement le monde physique, le monde matériel. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors, on appelle de ce mot que je n'aime pas trop, mais le mot inconverti. Inconverti dont le cœur n'a pas été transformé, changé, la vie n'a pas été changée. Donc cet homme, à l'état naturel, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le veut pas. Quelque part, il récuse tout ça, et il est dirigé par ses sens, il est dirigé par sa sagesse, parce qu'il a quand même une sagesse, par sa raison, son raisonnement, voire même sa religion. Ça n'empêche pas. Il peut être très pieux, et il ne connaît pas ce que Jésus nous enseigne dans l'évangile de Jean, la nouvelle naissance, qui est toujours précédé d'une repentance, d'une reconnaissance humble de notre condition d'homme, de perdition. Alors, c'est vrai que cet homme-là, il connaît des luttes morales, il connaît des luttes de conscience. Et on pourrait dire qu'il a une vie morale. Quand nous allons un peu plus loin, peut-être une vie amorale, une vie sans morale, voire même une vie immorale. Ça, c'est le péché, naturellement. Il y a une deuxième catégorie d'hommes, c'est l'homme charnel, dont nous allons parler ce matin, l'homme charnel. Et l'homme charnel, il nous est décrit toujours dans 1 Corinthiens, et nous l'avons donc dans ce premier texte que nous avons lu il y a un instant. Alors, je reprends ce passage, 1 Corinthiens, où les choses nous sont décrites d'une manière très particulière, 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, on peut dire que c'est un chrétien, c'est un croyant, disons. On pourra lui donner le titre de chrétien. 1 Corinthiens 3, chapitre 3, 1 à 3. Il dira, mais pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc l'homme charnel. Comme à des enfants en Christ. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas grandi. Ils ont les bases, ils connaissent la base finalement de la foi, d'une rencontre avec Dieu, mais sans plus. Alors, je vous ai donné du lait, mais non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez pas encore aujourd'hui, donc à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et Paul, d'une manière très claire, va dépeindre un petit peu les caractéristiques de l'homme charnel. Il dira, mais il y a parmi vous des jalousies, des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme charnel, en quelque sorte. Donc, il y a là un autre domaine qui le distingue du premier, c'est qu'il y a une prédominance de son âme. Voilà. Le premier, c'est l'instinct. Le deuxième, c'est l'âme. C'est une faculté que Dieu nous a donnée, donc, qui est marquée par la conscience. Je le répète, il a la foi, mais il est dominé par des influences charnelles. C'est pour ça qu'il est question de rivalité, de jalousie, des choses qui appartiennent, c'est vrai, à l'état naturel de l'homme, mais qui n'a pas été corrigé avec finalement la conversion ou quelque chose qui pourrait venir d'en haut, ou il ne s'est pas laissé faire en tous les cas. Alors ses priorités restent en deçà des plans de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est l'homme charnel. Et puis, troisième catégorie, c'est l'homme spirituel. Et là, il nous est donné vraiment quelque chose de tout à fait précis, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 15, il est dit ceci, « Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé par personne. » Et un peu plus loin, il nous est dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Trois dimensions. L'homme naturel, instinctif, l'homme charnel, l'âme qui fonctionne, c'est pas seulement les sens, c'est pas seulement l'instinct, mais il y a une personnalité, et puis il y a l'homme spirituel. Et cet homme, il peut connaître des chutes, comme les deux autres. Il peut connaître des faiblesses, mais néanmoins, il y a quelque chose qui le domine, c'est cette volonté déterminée à faire la volonté de Dieu. Il est humilié très souvent par ses chutes et ses faiblesses, mais il se dit, Seigneur, je suis pauvre, je suis misérable, mais néanmoins, toi, tu peux me rendre riche spirituellement, et par la force de l'esprit, tu peux faire de moi une autre créature, ce qui a déjà commencé à être fait, puisque, on le sait, à travers la nouvelle naissance, c'est tout ce que Dieu entreprend. Vous avez vu, j'ai fait un petit graphique. Je ne suis pas un dessinateur. Vous voyez derrière moi, hein, d'accord? C'est très primaire, hein. Mais ce graphique peut avoir le mérite, en tous les cas, de montrer et de mettre en évidence, parce que ça va être la suite du message. C'est un schéma, en quelque sorte. C'est un graphique comparatif, à travers des lignes ou des courbes, pour évaluer les différentes grandeurs ou les différentes valeurs du comportement des hommes. Alors, vous avez le comportement naturel. Il suit une ligne. Bon, avec des hauts et des bas, etc. Il semblerait que, finalement, eh bien, ce soit très faible, hein. Il n'y a pas de, voilà, c'est comme ça. C'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et puis, il y a le chrétien charnel. Alors, vous avez des courbes, ça s'en va, ça va dans un sens ou dans un autre. Puis, le chrétien spirituel, c'est beaucoup plus marqué. C'est beaucoup plus significatif. Mais il y a véritablement une vie. Alors, maintenant, je vous invite à ouvrir dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Regardez pas la référence parce qu'elle était faux, je me suis trompé. 1 Samuel, chapitre 26, de 1 à 12. Nous avons là la manifestation ou le témoignage du chrétien spirituel qui porte des fruits et le chrétien charnel où il y a beaucoup d'œuvres mais sans fruits. Donc 1 Samuel chapitre 26 1 à 12 et là nous allons voir deux personnages. Nous allons voir David qui régit selon son cœur et la pensée supérieure de Dieu, sa vie est régie par la pensée supérieure de Dieu, c'est l'homme spirituel et nous allons voir un autre homme que vous connaissez parce que vous avez lu son nom dans la Bible, il s'appelle Abishai, qui marche avec les impulsions du moment, et nous allons observer maintenant la différence. Alors, on va reprendre ce texte, je le rappelle, 1 Samuel 26, verset 1er, nous allons lire. Les Ziphiens, ou les Ziphiens, allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David, n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert. Saül se leva et descendit au désert de Zip avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Zip. Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au milieu où Saül campait et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Éthien, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit « Moi je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. » Alors voilà, dans cette situation, nous avons suffisamment de quoi méditer. Alors, nous avons en quelque sorte une réflexion que nous porterons sur ce titre que j'ai donné à notre message, la main droite et la main gauche, enfin la droite et la gauche. Voilà, et nous allons voir pourquoi les choses sont articulées de cette manière, parce qu'on va rester en mémoire, et on peut éteindre maintenant les choses, on va rester en mémoire entre la différence qu'il y a entre l'homme spirituel, qui est représenté par David, et l'homme charnel. Il est chrétien, il est croyant, disons, croyant, et nous allons voir un petit peu comment ça s'articule, la main droite et la main gauche. Vous avez vu avec moi dans ce premier verset, il est question des Ziphiens qui allèrent tout simplement auprès de Saül, le roi d'Israël, et ils lui ont dit « Mais est-ce que tu ne sais pas que ton ennemi, celui que tu poursuis, eh bien il est sur la colline d'Aquila, il est en face du désert ?» Nous avons là à travers tout simplement, eh bien, à travers l'intervention cette tribu, enfin c'est pas une tribu, c'est une partie de la tribu de Juda, eh bien, une dénonciation, une trahison de David. David était judéen, c'est-à-dire que il était de cette tribu, et ce sont des gens de sa tribu qui vont le livrer, en quelque sorte, qui vont aller voir le roi Saül pour lui dire, mais écoute, hein, si tu veux, eh bien il est là, il est parmi nous, il est au milieu de nous. Et c'est une véritable trahison. Les raisons peuvent s'articuler, pourquoi les Ziphiens ont-ils trahi David, ont-ils voulu le livrer? Peut-être parce qu'ils voulaient mériter les faveurs de Saül, en sachant qu'à un moment ou un autre, David serait assassiné. Il serait tué, ils se disent, ben, vaut mieux se mettre du bon côté, même si on est judéen, on se met quand même du côté du vainqueur, en quelque sorte. Ou alors, ils sont allés livrer David, parce qu'ils ont eu peur, ils craignaient d'encourir la vengeance du roi, s'il apprenait que David avait été trouvé ou avait trouvé refuge dans leur contrée. Les deux positions, hein, j'explique le texte, hein, tout simplement pour nous donner de la figuration un petit peu des choses. On s'étonnera pas que dans la signification du mot ziphien, zip, ça veut dire emprunter. Et vous savez, les gens qui sont empruntés, ce sont des gens maladroits. Hein, on dit, il est emprunté, voilà, on lui donne quelque chose dans les mains, il laisse tomber. Voilà, c'est d'être en quelque sorte un gauche. C'est pour ça que je vous ai parlé de la main gauche. Vous verrez, il va y avoir un développement autour de cette question. Zip. Oui, on va pas s'arrêter sur le sujet. Et puis ensuite, il nous est simplement dit que Saül, le roi, qui cherchait à tuer David, a réagi. Il nous est dit qu'il se leva tout de suite, hein, quand il a appris qu'il était dans les parages, et il descendit au désert de Zip avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David, finalement, eh bien là, dans le désert, là où il s'était réfugié, en quelque sorte. Vous avez remarqué ce qui est dit? Pour chercher David. Ben, on pourrait traduire pour tuer David, parce que il le cherchait pas tout simplement pour lui faire ses amabilités, mais pour le tuer. Et nous voyons que David, comme déjà avant, et comme longtemps après, il était réduit tout simplement, eh bien là, à une partie de cache-cache avec son ennemi. Vous savez que David, avant de devenir roi, a couru dans les déserts. Il a été fugitif à peu près entre 15 et 17 ans. Quand vous avez un ennemi qui vous court après pendant tant d'années, vous demandez si un jour vous allez vous en sortir. C'est terrible, hein. Trahi par ses propres amis, en quelque sorte. Et ça, c'était la condition de David. Et vous savez, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les combats que nous pouvons avoir, ça ne pourra que toujours développer notre communion et notre attente du secours de Dieu. Je pourrais vous dire le contraire, que quand on a une vie chrétienne tranquille, pas de problème, c'est... Oui, mais peut-être que nous avons besoin de ne pas chercher les histoires et pas chercher les combats et les luttes, ils viennent tout seuls. Mais néanmoins, on s'aperçoit que dans le cas de David et dans le cas de beaucoup dans l'histoire de la Bible, et peut-être encore aujourd'hui, que quelquefois nous sommes travaillés par toutes sortes d'ennemis, des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs, que ce soit la maladie, que ce soit toutes sortes de contingences qui viennent, qui nous tombent dessus sur le plan familial, social ou autre chose, ça nous donne d'avoir de la combativité, pas de l'agressivité, mais de la combativité et de chercher en Dieu notre secours et notre délivrance. Alors, nous voyons que là, c'est une lutte qui est complètement inégale parce que nous nous apercevons que le roi Saül est bien entouré. Il nous est dit que il avait 3000 hommes d'élite. Hein. C'était, on peut dire, le GIGN d'aujourd'hui. Hein. Et puis les vous savez, les commandos de choc. Hein. C'est ça, hein, en gros. Hein. Le roi était entouré de 3000 de ses hommes les plus aguerris à la guerre. Vous savez, c'est toujours la même chose. Le chrétien, il se retrouve, ou le croyant se retrouve un petit peu comme David, le petit David devant Goliath. Et nous avons souvent des montagnes à franchir, et nous avons des géants à vaincre, qu'ils soient d'une nature ou d'une autre. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il est tout seul, et il a 3000 hommes d'élite qui sont à ses trousses. C'est quand même assez extraordinaire que c'est arrivé plusieurs fois, et jamais le roi, et jamais ses soldats d'élite n'ont jamais pu mettre la main sur eux. C'est pour nous dire que nous n'avons pas à craindre parce qu'il y a une protection sur nos vies. Ouais, et ça, il faut le savoir, et c'est un rappel qui passe à travers le texte que je suis en train de commencer, mais ça, c'est important. Alors, on a voulu lui dire, mais il est caché sur la colline de Hakila. Hakila, dans la terminologie, dans son sens, ça veut dire sécheresse, parce qu'il était entouré d'un endroit, d'un espace qui était désertique, et c'était un peu le reflet de la vie, finalement, et bien de David, oui, qui était là dans, on peut dire, dans une sécheresse humaine, on peut dire, hein. Combattu, disputé, discuté, et les mots ont un sens. Alors, au verset 3 et un peu plus loin, si on veut continuer le commentaire, il nous est dit que il campa, donc le roi, sur la colline d'Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, alors il envoya des espions, etc., etc. David va faire une première chose, c'est qu'il va vérifier si ce qu'on vient de lui dire, par les gens qui sont avec lui et qui surveillent un petit peu sa protection, ils sont pas très nombreux, il voit une troupe, parce que 3000 hommes qui se déplacent, ça se voit, hein. Et il voit arriver là, eh bien, une troupe en armes, et il va envoyer des espions pour avoir confirmation. Alors, c'est à ce moment-là que les choses vont prendre tout son sens, c'est que David, après avoir la certitude qu'on est encore une fois venu pour le saisir et pour le tuer, va tenter une expédition d'une incroyable audace. Parce que l'audace, c'est la foi. Il y a des audaces peut-être téméraires. Mais c'est pas de celle-là que je veux parler. Quelquefois, Dieu nous donne de faire des expériences dans les situations les plus dramatiques et les plus difficiles de notre vie. Et c'est là qu'il y a un développement de la foi à beaucoup plus que nous n'avons pu l'imaginer parce que Dieu est là. Et il va faire donc cette expérience, cette audace qu'il va mettre en œuvre. Et c'est pour cela qu'un peu plus loin, eh bien, là, les choses nous sont confirmées. Alors David se leva et vint au milieu où Saül campait et il vit la place où couchait le roi Saül avec Abner, chef de net, en nous précisant qu'il était le chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Alors imaginez-vous un peu ce que ça représentait. Un homme seul avec une petite troupe. Ça, c'est David, c'est l'homme spirituel. Et puis, il y a là tous ses ennemis qui sont en grand nombre et puis sont des soldats aguerris naturellement. La précision est donnée, le roi Saül était avec Abner. Abner était un chef de guerre remarquable. C'était quelqu'un qui avait été aguerri à la guerre et qui savait ce que ça voulait dire. Et le roi était couché au milieu du camp, c'est-à-dire dans l'endroit le plus protégé. Et en plus, le peuple campait autour de lui. Imaginez-vous qu'est-ce que l'on puisse faire. C'était une forteresse humaine qui protégeait le roi, pour montrer naturellement la différence. Et on peut dire que, dans cette circonstance, le roi Saül était vraiment intouchable. Qui pouvait pénétrer dans ce camp? C'est pas possible. Mais ce qui est impossible aux hommes va devenir possible pour Dieu, et vous allez le voir d'ici quelques instants. Je poursuis encore la lecture. David prit la parole, et s'adressant à Achimélec, Éthien, et Abishaï, fils de Tseruza et frère de Joab, il dit, mais qui veut descendre avec moi dans le camp de Saül? Et Abishaï répondit, moi je descendrai avec toi. Alors il y a quelque chose à signaler dans cette situation. C'est que l'histoire qui commence et qui va avoir son développement pour montrer la réalité, la différence qu'il y a entre l'homme spirituel et l'homme charnel, eh bien, va révéler le comportement et la réaction de chacun dans une même situation, une situation semblable. Deux hommes, David et Abishaï, chacun va démontrer s'il est oui ou non spirituel ou il est oui ou non charnel. David et Abishaï. Abishaï, ça veut dire père des dons. Père des dons, c'est-à-dire celui qui dispense les dons et tout cela. Maintenant, si nous abordons la question d'être spirituel ou charnel, il faut quand même introduire une autre notion, c'est le fruit. Oui, il y a les dons, il y a les fruits. On peut avoir beaucoup de dons sans les fruits. Et il nous est recommandé d'avoir les dons avec les fruits. Parce que s'il n'y a pas de fruits, ça annule les dons. C'est tout simplement eh bien, ce que Paul nous enseigne dans le chapitre 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens. Et ça, c'est important parce que on voit la différence. Ne jugeons pas selon les apparences, mais jugeons selon la réalité, la vérité. Jugeons d'une manière spirituelle, puisque c'est Dieu qui nous donne de juger de tout. On l'a lu tout à l'heure. Donc, David et Abishaï. Pour vous donner un petit peu les liens de famille, il nous est dit Abishaï, fils de Tseruza. Tseruza était la sœur de David, qui avait eu trois fils. Vous allez en connaître des choses en généalogie biblique. Il y avait tout simplement Joab, dont on reparlera, le grand général de David. Il n'est pas nommé là pour l'instant. Il y avait également Abishaï, et il y avait également Azaël. Vous savez, celui qui avait des pieds légers pour... dont les pieds étaient aussi légers que la gazelle, et les jambes de la gazelle. Alors voilà, donc, en d'autres termes, Abishaï, c'était le neveu de David, tout simplement. Alors je restitue un peu les choses, mais c'est bien de faire un peu d'histoire biblique, de connaître, quand on lit un texte, de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants, et c'est très intéressant de rentrer, il faut pas en faire tout un sujet naturellement, mais c'est bien de connaître où se situent les uns et les autres. Donc je vous parlais il y a un instant, nous allons voir que certainement Abishaï avait reçu des dons de Dieu. Il avait reçu des dons, c'était un homme courageux, c'était un homme vaillant à la guerre, un homme qui aimait David, son oncle, qui aimait finalement la justice, etc. Mais il y avait eu vraiment une grande lacune. C'est ce qu'on a montré un petit peu à travers le graphique tout à l'heure, que là il y a des hauts et des bas. Alors, faut faire la différence entre un homme spirituel portera toujours des fruits, comprenez? Oui. Et on ne juge pas un homme spirituel parce qu'il apporte des dons, parce qu'il donne des prophéties, parce que il a des révélations, dons de révélation naturellement, même les dons de puissance, le puissance de la foi, le don de foi, le don du miracle, le don de guérison. C'est pas comme ça qu'il faut juger les choses. Le don va se trouver confirmé authentiquement venant de Dieu que s'il y a des fruits à côté. Autrement, eh bien, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et c'est important dans nos milieux pentecôtistes, nos milieux charismatiques, de savoir à faire la différence. C'est important. Donc, on a ce cliché, ce schéma. Nous allons oser une comparaison maintenant, que vous connaissez. Elles ont. Je parle des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez l'histoire. Matthieu, chapitre 25, verset 1er jusqu'au verset 8, je crois. L'histoire des vierges sages et des vierges folles. Elles ont. Je mets une parenthèse, j'y mets David et Abishaï ont beaucoup de choses en commun, comme les vierges folles, les vierges sages, les dix vierges. Elles ont beaucoup de choses en commun. La lampe de la foi est une lampe qui les éclaire dans leur courage, tous les deux, comme dans l'attente des vierges, naturellement. Ils ont cette hardiesse, ils ont cette persévérance à croire que la victoire revient à Dieu et qu'elle reviendra toujours à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ils ont le privilège de connaître Dieu. Les vierges, ou David et Abishai, ça c'est quelque chose, sauf à une différence, que quelquefois nous ne faisons pas toujours attention, sauf à une différence, c'est le contenu de leur lampe. Les 10 vierges avaient des lampes. David avait une lampe morale et spirituelle. Abishai avait une lampe aussi spirituelle et morale. Mais la qualité et la quantité d'huile n'étaient pas la même. Ouais. Et ça, c'est important. Nous avons tous une lampe qui brille. À travers notre vie intérieure, notre personnalité, à travers ce que Dieu nous a donné. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses enfants, nous appartenons à une même famille. Et nous avons une lampe, c'est la vie en quelque sorte, c'est le capital vie que Dieu nous a donné. Mais pas seulement vie physique, parce que le monde l'a, mais vie morale, vie spirituelle. Mais la différence, elle va se trouver être mise en évidence dans la quantité, vous savez que les vierges se sont trouvées sans huile, et également dans la qualité d'huile. Et vous savez que le Saint-Esprit est présenté comme l'emblème du... L'huile, c'est l'emblème du Saint-Esprit. Alors on va aller un peu plus loin. L'huile de l'esprit, David est un homme rempli de l'huile de l'esprit. Et il y a l'huile de la chair, c'est-à-dire de la nature charnelle, de la nature, finalement, qui est représentée par Abishai. Le verset 7 nous dit, pour poursuivre, « David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet, Amner et le peuple étaient couchés autour de lui. » Pour nous dire ceci, c'est qu'ils ont été courageux, nos deux hommes, là, hein. Ah oui, parce que quand ils se sont aperçus du haut de la colline là où ils étaient, quand ils ont vu le camp, qu'il y avait une foule de soldats, qu'il y avait une partie du peuple qui était là entourée, ils se sont dit, mais humainement parlant, on pouvait dire qu'il n'y avait rien à faire. Hein. Mais ils ont fait les choses, ils ont certainement contourné les premiers barrages, les premières gardes, etc. Ils se sont faufilés de nuit, ils sont passés incognito en quelque sorte. Et pour nous rappeler encore une fois que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, c'est qu'il nous est simplement rappelé que Saül était couché et il dormait. Il avait mis finalement comme attestation royale sa lance qui était à côté de lui, mais il n'avait pas besoin de sa lance, il avait 3000 lances autour de lui, mais peut-être avait-il besoin de se rassurer lui-même. Hein. Et simplement ces mots qui ont cette simplicité, il nous est dit qu'il était couché et il dormait. Il dormait du sommeil du juste. Il dormait parce qu'il se disait, mais personne ne viendra me toucher, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Mais Dieu va déclencher un providentiel allié. Dieu plonge le camp royal dans un profond sommeil miraculeux, inexplicable. Vous savez, quand Dieu veut aveugler l'intelligence, quand il veut aveugler les yeux du cœur d'un homme, quand il veut aveugler les yeux de la tête d'un homme, quand il veut aveugler son sens moral, sa conscience, mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, et d'ailleurs dans plusieurs situations, nous le voyons par exemple à Sodome et Gomorre, nous le voyons à Dothan avec le prophète Élisée, Dieu envoie finalement un aveuglement. Et les gens, ils ne peuvent rien faire. Hein. Alors, c'est inexplicable. Or, le verset 8, pour poursuivre, nous dit, mais que Abishai dit à David, et c'est Abishai qui prend la parole, parce que c'est important, il y a une introduction qui est importante à souligner. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Donc, ils sont arrivés, là, dans la tente du roi. Les gardes, ils n'ont rien vu. Ils dormaient tous. C'est pas normal. On est gardes, on dort pas, hein. Ça c'est curieux, mais c'est comme ça. C'est comme à la croix, hein, vous savez, c'est comme au tombeau, les gardes s'étaient assoupis. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible, pour nous montrer que Dieu fait ce qu'il veut, pour délivrer ses enfants, et pour se glorifier de la délivrance qu'il va donner. Écoutez, on revient sur cela. Abishai va dire à David, « Laisse-moi le frapper, puisque je suis là. » Je vous dirais que, quand même, il faut bien le signaler, le roi Saül ne courait pas après Abishai, il courait après David. L'ennemi du roi Saül, c'était David, c'était pas Abishai. Et Abishai va prendre les choses en main en disant, mais moi, je vais faire les choses pour toi. Je veux faire les choses. Nous avons là le témoignage de, on pourrait dire, de la témérité, de l'action charnelle, qui ne réfléchit pas aux conséquences ou aux futures conséquences. Pour une même situation, il y a là une attitude spirituelle et une attitude charnelle. Abishai, c'est un croyant charnel. Il se trouve dans les conditions qu'il juge comme étant providentielles, le sommeil du camp, le roi est à ses pieds, il a sa lance à la main, et il se dit, moi, c'est Dieu qui le fait. Et il lui dit, laisse-moi le frapper. Aujourd'hui, Dieu le livre. Aujourd'hui, Dieu te le livre entre les mains. Abishai est du genre comme nous pouvons l'être tout en étant croyant, tout en étant né de nouveau, tout en étant converti à Jésus-Christ, du genre expéditif. Et là, il y a des choses à apprendre. Parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, et notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Parce que cette histoire, elle se poursuit. Elle va se poursuivre encore des années. Alors, il dit, on n'y reviendra plus, on va le mettre à mort, et puis après, tu pourras prendre le pouvoir, naturellement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Abishai est le témoignage d'un croyant qui est impatient d'en finir, et en finissant de cette manière, il croit bien faire. Il se dit, on va se débarrasser, hein. C'est terminé, hein. Il nous en a fait assez voir. Il t'a persécuté déjà pendant des mois et des années, c'est terminé, on en finit. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe avec le Seigneur. C'est pas comme ça. Parce que, vous savez, avec le diable, on peut gagner des batailles, mais attention de ne pas perdre la guerre. Parce que gagner la guerre, c'est autre chose que de gagner des batailles. Et là, c'est là où il faut du discernement. C'est là où il faut de la perspicacité spirituelle, parce que si on agit humainement parlant, charnellement parlant, avec les meilleures raisons, même bibliques, on risque de tomber dans un piège. Et il y en a qui sont tombés dans des pièges, hein, de cette manière, parce qu'ils ont été trop vite. C'est la main de la chair ou c'est la main de l'esprit. Et quelle école pour chacun d'entre nous. On est spontané, vous savez, quand on a mal, on a des réactions de rendre finalement les choses, d'aller très vite. Quelquefois, c'est pas avec nos gestes, hein, j'espère, parce que autrement, serait la bagarre continuelle à la boxe. Hein. Mais quelquefois, à l'intérieur de nous-mêmes, ça boue. On se dit, j'ai une occasion, c'est Dieu aujourd'hui qui me donne l'occasion. Attention, parce que c'est Abishai qui le dit, mais c'est pas Dieu qui lui a dit de le tuer. Et ça, c'est autre chose. C'est que Dieu a un développement pour la vie de David. Il a un développement aussi parce qu'il faut que la méchanceté de Saül aille jusqu'à son terme. Et il faut également qu'Abishai comprenne une bonne leçon. C'est que c'est Dieu, je le dis pour la troisième fois, qui est maître du temps et des circonstances. Il est maître de tout. Alors, on a parlé de son impatience. On a parlé de sa manière d'expédier les problèmes. Alors, pour se donner du crédit et légitimer son entreprise, qui, au demeurant, je le rappelle, cette entreprise, c'est de tuer un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, c'est le roi d'Israël. C'est un régicide, c'est comme ça qu'on l'appelle en formule judiciaire. Alors, il va se servir du nom de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te le livre. Et vous savez, faisons attention, nous chrétiens, quelquefois, quand on utilise le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors, on pense aux jurons. On passe à toutes ces choses, d'accord? Mais quelquefois, nous, les chrétiens, nous pouvons prendre, finalement, le nom de Dieu, parce que ça nous arrange. Parce que nous voulons nous crédibiliser, parce que nous voulons, tout simplement, légitimer quelque chose, une action qui nous est venue en tête en pensant qu'elle vient de Dieu, mais qu'elle vient de notre chair. Vous savez, de ce genre, on en entend un peu moins, et heureusement. Mais il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, dans les églises, on entendait toujours des gens qui disaient, et des chrétiens, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait ceci, Dieu a dit ceci, etc., etc. Alors, on n'en a que cure de tout cela, vous comprenez? Je dis bien, parce que nous, on a souffrir de tout cela. Ah ouais, c'est terrible. Mais comme si Dieu ne parlait qu'à ces gens-là. Et quelquefois, quand on voyait la vie de ces gens-là, sur le plan moral, de ces chrétiens, hein, dans un domaine ou dans un autre, ben, ils n'étaient pas à la hauteur. Hein. Ah, il y avait peut-être une prétendue... inspiration divine, mais les fruits n'étaient pas là. Les fruits n'étaient pas là. Et Abishai, lui, va se servir de cette méthode qui a traversé les siècles et qui traverse encore même l'Église d'aujourd'hui. Dieu m'a dit pour toi. Alors on arrête avec tout ça. Hein. Parce que quand Dieu veut parler, et ça je l'ai appris aussi, c'est quand Dieu veut parler, il nous parle aussi à nous. Hein. Il nous parle pas avant. Il ne parle pas, il parle pas à l'autre avant, il me parle. Et si l'autre vient en me disant, voilà, j'ai quelque chose à te dire, et ça dépend dans les conditions dans lesquelles il est dit, alors à ce moment-là, moi, je vais en tirer les conséquences. Je vais lui dire, voilà, ça confirme ce que finalement, le Seigneur avait déjà mis depuis peut-être des semaines, depuis des mois, depuis des années dans mon cœur. Alors à ce moment-là, ça confirme. Mais quand ça se passe dans le sens inverse, alors faites attention parce que il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui se sont laissés entraîner par des fausses prophéties chez des prophètes de misère et qui en ont perdu même leur salut. Hein. Je peux en parler savamment. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, Dieu te livre. Alors, attention. Se servir du nom de Dieu, c'est quelque chose qui peut être très dangereux quand c'est fait charnellement, quand c'est spirituel, c'est autre chose, mais quand c'est fait charnellement. Vous savez qu'en matière de vin, de cru, on a des appellations contrôlées, hein, contrôlées. Mais là, se servir du nom de Dieu, ça peut être une appellation incontrôlée et incontrôlable. Alors il faut faire attention à cela. L'homme spirituel va pas se faire, il ne se distinguera pas parce qu'il a des révélations, parce qu'il y a des inspirations, il a des transports ou toutes sortes de vibrations. Excusez-moi, je suis en train de... Mais il va, c'est le fruit qui va véritablement attester ce qu'il est. C'est le fruit. On est d'accord avec ça. Alors, il faut bien dire que l'homme charnel fonctionne avec la loi et la justice. Ça, il faut, c'est son point fort. On n'y revient pas. Dieu me le livre ou Dieu te le livre entre les mains. Maintenant, je vais le fixer en terre avec la lance et il va mourir et puis on sera tranquille. C'est la loi et la justice. C'est la loi du talion, en quelque sorte. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ce que nous allons nous apercevoir, c'est que David, lui, il est déjà en avance de 1000 ans. Lui, il n'a pas l'esprit de la loi du talion. Il a l'esprit du sermon sur la montagne, déjà. Et il avait une partie d'avance. Parce que vous savez, l'homme spirituel, ça ne sera pas son légalisme qui va véritablement faire la dominante. C'est l'esprit de grâce qu'il a reçu en Jésus-Christ, l'esprit d'une nouvelle naissance. C'est tout à fait, c'est l'esprit du sermon sur la montagne. Et il y a un rappel de référence que je dis au passage, parce que je pense que vous le connaissez, mais faut-il le lire encore? Ça peut toujours servir. Parce que, comme c'est l'apôtre qui dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que cela vous est salutaire. Écoutez dans Romains chapitre 12, verset 17, je lis le texte. Ne rendez à personne le mal pour le mal, même quelquefois, même quand on en a vraiment grandement envie. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est dur, hein? S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et puis cette parole, qui est véritablement la recommandation, et qui est la signature de la vie de l'esprit chez un chrétien, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Laisse-moi, Dieu te le livre aujourd'hui, je vais le tuer, tu en seras débarrassé. Quand j'ai préparé ce message, je me dis, mais combien Abishai nous ressemble quelquefois, dans nos précipitations, dans nos élans de justice, de légalisme et tout cela, où on veut régler les problèmes instantanément. Ouais. Enfin, moi ça me ressemble quelquefois. Souvenez-vous de Jean, l'apôtre qui est appelé l'apôtre de l'amour. Vous savez ce qu'il a fait un jour? Il a prononcé une sanction judiciaire, parce que c'est le mot, immédiate, sur un village des Samaritains qui ne voulait pas recevoir Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? C'est très agréable, hein? Fais descendre le feu du ciel sur eux, hein? Quelquefois, nous avons des réflexes comme ça. Seigneur, je suis outragé. Je suis scandalisé, c'est pas normal, c'est terrible. Alors, tu lui coupes la tête. Souvenez-vous de l'histoire de l'oreille de Malchus? Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il sort son épée de son fourreau, et puis le premier qui passe, c'est Malchus, le pauvre. Et dites donc, une oreille en moins, dites donc, ça devait couler le sang et tout ça. Jésus lui dit, remets ton épée dans ton fourreau, ça sert à rien tout ça. Ça, c'est la main de la chair, c'est pas la main de l'esprit. Heureusement que Jésus était là, parce qu'il a guéri l'oreille de Malchus, parce qu'autrement il y avait deux crucifiés, enfin il y en avait quatre, Il y avait Jésus, il y avait les deux autres, il y avait Pierre aussi qui a été crucifié pour avoir fait ce geste. Vous savez, quelquefois, ça peut nous entraîner très loin. Hein. Alors, c'est toujours notre empressement qui est en cause et qui peut nous mettre en difficulté. Vous savez, quand Dieu veut que nous soyons et qu'il désire que nous soyons spirituels, c'est pour nous protéger. Parce que c'est une protection d'être le plus près de lui. Et dans des moments difficiles, nous sommes quelquefois exposés à des choses qui sont dangereuses, qui sont périlleuses. Mais Dieu nous dit, remets ton fourreau, remets ton épée dans son fourreau. C'est pas la peine d'aller plus loin, naturellement. Régler les problèmes, et ça c'est pratique pour nous, et régler les problèmes sans délai, au mépris de ce que Dieu peut et veut faire. C'est vraiment pas prendre la connaissance de sa volonté. Ouais. On va trop vite. Il nous est dit que celui qui agit avec précipitation ne court qu'à la ruine. Ça, c'est un proverbe qui nous est rappelé. Et ça, faut faire attention. Il faut faire attention. Main malheureuse. Je dis main malheureuse de la chair, dont les causes est tout simplement, et c'est facile à comprendre, l'insupport d'en finir vite. On règle les problèmes vite. Et vous savez, dans les églises, autant les pasteurs, autant peut-être les chrétiens, où quelquefois il y a eu des grosses erreurs de fait, parce qu'on a dit, il y a le péché, il y a le mal, alors il faut tout de suite trancher. Il y a eu des catastrophes. Hein. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui ne sont plus là au milieu de nous, qui ne sont plus là dans les églises, parce que avec perte et fracas, on les a mis dehors. L'insupport du mal et du péché des autres. Mais dites donc, Jésus, il a bien fallu qu'il nous supporte, hein? Il a bien fallu qu'il supporte aussi le poids de la conséquence en étant crucifié de toutes nos forfaits, de toutes nos erreurs que nous avions faites, de toutes les fautes. Alors, faut pas aller trop vite, frères et sœurs. Faut pas aller trop vite dans les laisser faire. Le Seigneur ne nous reprochera pas la prudence, la prévoyance et la sagesse. Soyez sages comme des serpents et soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Ça, c'est la bonne version. Hein. Enfin, c'est le bon ordre, en tous les cas. Je vais bientôt terminer. La leçon cardinale, la leçon principale, si vous voulez, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Quand il nous parle du bon grain et de l'ivraie. Ouais, le bon grain, il est semé. Voilà. Et puis, il y a le livret qui vient derrière. Et les serviteurs vont voir le maître en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte? Là, toute la récolte va être perdue parce qu'il y a le mélange du bon et du mauvais. Et vous savez ce que Jésus nous enseigne, ce que le maître dira à ses serviteurs, laissez-les pousser ensemble. C'est difficile à accepter, hein. Laissez croître le pur et l'impur. C'est dur, hein. L'injuste et le juste, le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Laissez-les pousser ensemble. Parce qu'après, il nous est donné la réponse, mais c'est pas vous qui toucherez, j'enverrai des moissonneurs qui feront le tri de la moisson. Et il y a des fois, il y a des choses où nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est prier le Seigneur pour qu'il envoie ses moissonneurs. Mais pas à nous. Autrement, nous pouvons ressortir avec des mains sanglantes. Peut-être qu'au tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de jugement et de condamnation, mais un tribunal qui sera réservé pour les chrétiens, qui sera réservé pour les pasteurs, qui sera réservé pour tous les enfants de Dieu, peut-être que Dieu nous dira, mais dis donc, tu as fait des choses, tu as dit des choses, mais moi je te l'avais pas demandé de le faire. C'est toi, ta conscience qui t'a dit de le faire. C'est ta sensibilité peut-être à certaines choses. C'est peut-être ta manière de concevoir moralement les choses. Mais moi je t'ai jamais rien demandé. Parce que celui-ci ou celle-là, eh bien, il en a perdu la foi. Il a perdu la vie. Ne péchons pas et ne faisons pas pécher des frères. Par certaines choses qui... On n'est pas des justiciers. On n'est pas des magistrats. On est là pour nous tenir dans la prière devant Dieu. Et ce sera une implication où nous allons souffrir nous-mêmes. Et peut-être de souffrir, de ne rien faire et de ne rien dire. Mais de souffrir. Parce que c'est Dieu, encore une fois, qui est au-dessus de tout. Et vous savez, quand Dieu fait durer les choses, c'est parce qu'il veut aller jusqu'au bout pour sauver les âmes. Nous sauver nous-mêmes et puis sauver les autres, naturellement. Alors le verset 9 nous dit ces paroles. Tout simplement, David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Ne le détruis pas. Ne ravis pas sa vie. Parce que tu sais, il y aura toujours des conséquences. Surtout que celui que tu veux tuer, c'est quand même le roi d'Israël. Et le roi d'Israël a été oint. Il a été choisi parce que quoi qu'on en dise, même si c'est le peuple qui a choisi Saül comme roi, c'était une erreur, c'est vrai, mais néanmoins, il a été quand même oint d'huile royale par le prophète Samuel. Les choses sont ainsi, tout simplement. Il y a trois choses de valeur spirituelle qui apparaissent dans ces mots. La vie est supérieure à la mort. Et Dieu, s'il nous laisse du temps, c'est qu'il ne veut pas que les hommes meurent. Et nous, quand il nous laisse du temps, c'est qu'il ne veut pas que nous perdions finalement, eh bien, la partie. Même pour un coupable. Même pour un coupable. Le deuxième point, c'est que, est-ce que nous serions supérieurs à Dieu pour juger à sa place? Parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissements d'une situation qui a conduit un homme à pécher, ou un homme à être coupable, ou à être en faute d'une manière ou d'une autre. Puis le troisième point, si c'est Dieu qui place un homme, comme Saül par exemple, mais c'est encore Dieu qui est capable de le déplacer. Il est quand même encore capable de le déplacer, et c'est pas à nous de le déplacer. Et c'est le verset 10 qui nous dit ceci, et c'est une parole de sagesse, quand David dira, et David dit, mais l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit qu'un jour vienne et qu'il meure sur un champ de bataille, c'est ce qui s'est passé à Gilboa d'ailleurs, c'est arrivé, des années après, soit qu'il périsse finalement d'une mort naturelle. Mais c'est pas à nous de faire les choses. C'est ainsi. Et il revient ainsi à Dieu de choisir le temps, les circonstances et les moyens pour libérer, pour nous libérer, pour libérer peut-être quelqu'un, pour secourir et pour sauver, parce que les causes et les effets du mal, et également le mal et le méchant. Dieu veut sauver le méchant. Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse. Ça, c'est important. C'est important. Je termine avec le verset 11 et 12. Il est dit ceci. Loin de moi par l'Éternel, dira David, de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. On va s'arrêter là pour l'instant. David, même choisi par Dieu pour devenir le roi après Saül et qu'il a été appelé pour cela, eh bien, de lui-même, n'ose pas toucher à la dimension spirituelle qui est le champ réservé à Dieu seul. Il aurait pu dire, bien moi, comme je sais que je vais avoir l'onction royale et qu'un jour je serai roi à la place de Saül, on va avancer les choses. Parce que ça va bien, hein, d'attendre avec un homme qui est méchant et qui veut me détruire. Alors, l'occasion est bonne. Non, non. Il se réfrène. Et ça, c'est une qualité, un fruit de l'esprit dont nous allons terminer avec en conclusion d'ici quelques instants. C'est qu'il sent, il sait que c'est un champ réservé à Dieu. Qui peut prétendre avoir assez de sagesse pour décider dans ce domaine, de régler les problèmes parfaitement, et j'insiste sur l'adverbe, parfaitement. Aucun d'entre nous, même le meilleur, le plus sage des pasteurs, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Et on va apprendre à le faire que dans la mesure où on se tient devant Dieu dans des problèmes cruciaux, des problèmes difficiles, des problèmes récurrents, des problèmes quelquefois qui sont terribles, on ne l'apprendra que dans la mesure où on se mettra au pied de Jésus, qu'on s'humiliera et qu'on dira « Mais Seigneur, c'est toi qui fais tout. » Mais combien de fois nous avons été trop vite? Combien de fois nous avons porté l'épée? Combien de fois nous avons l'épée de la langue aussi, hein, dans toutes sortes de choses? Alors, main de la chair ou main de l'esprit, il y a des droitiers et des gauchers. C'est pas un défaut d'être l'un ou l'autre. Je tiens à le dire, hein. C'est pas un défaut. Il y a la main droite, il y a la gauche. Quand on est de la main droite, on est adroit. Je voudrais vous dire que ceux qui sont de la main gauche peuvent être aussi adroits. Mais quelquefois, de cette main gauche est venu le mot être gauche. Donc, on n'est pas adroit, on est maladroit. Et quand on est charnel, on est forcément maladroit, excusez-moi. Forcément maladroit. Parce que c'est pas possible autrement. Dans Jacques, il nous est donné cette dernière chose. Il nous est dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse, c'est un fruit de l'esprit, ça. Hein? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et je pense que il avait ça, hein, dans son cœur, Abishai, hein, et un esprit de dispute, puisqu'il voulait tuer, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, et vous savez ce qu'il dit? Elle est diabolique. Derrière, il y a une main invisible. Elle est diabolique. tout simplement. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, parce que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. David était un homme de paix et il recherchait la paix et il avait une occasion formidable de se débarrasser de son ennemi. Alors, comment l'aventure s'est-elle terminée? Parce que là, on s'est arrêté tout simplement à cette parole. Prends la cruche et allons-nous-en. Alors, simplement sous cette forme, je vous lirai simplement. Loin de moi de porter la main sur loin de... Prends seulement la lance, à son chevet la cruche. David, et je lis la suite, David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil, car l'Éternel les avait, dans lequel l'Éternel les avait plongés. C'est ce que je vous avais dit précédemment. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin, sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne réponds-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi, qui pousses des cris vers le roi? Et David dit, à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Parce que c'était un vaillant guerrier. Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Là, ça c'est la chute. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Il avait pris des preuves, des pièces à conviction, en quelque sorte, et qui, véritablement, a été la caractéristique d'un fruit de l'esprit qui était véritablement le signe patent qu'il y avait chez David, des dispositions qui n'étaient pas des dispositions de lui-même, des dispositions de l'homme spirituel, de l'esprit de Dieu en lui, que l'on appelle tout simplement la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de Dieu. C'est un fruit surnaturel. C'est un fruit surnaturel. Et en montrant finalement, la lance et la cruche, ça voulait dire, regarde, tu vois comment on est capable de régler les problèmes. Surmonter le mal en faisant le bien. C'est ça, hein, ce que nous pouvons découvrir. Et ce fruit de l'esprit vient de Dieu, je le répète à dessein. C'est le témoignage vrai d'une maturité spirituelle. Si nous prétendons être matures spirituels, il faut avoir un cœur comme celui de David. Maturité spirituelle, c'est un signe certain de croissance dans la foi et dans la grâce de Dieu, pas dans la loi. La loi, elle tue. La foi, elle nous parle d'amour, même pour les coupables. C'est la différence. L'un était excessif, Abishai, l'autre était rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est une force intérieure de volonté qui est plus grande que toutes les forces extérieures de la tentation, de toutes sortes de désirs et de toutes sortes d'émotions. Ça s'appelle tout simplement le contrôle de soi, et c'est un équilibre en tout. Et c'est ça ce que Dieu veut nous enseigner et nous le rappeler ce matin à travers cette histoire de la main droite et de la main gauche. Seigneur, donne-moi de ne jamais agir avec la main de la chair, mais d'agir avec la main de ton esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, l'homme spirituel et l'homme charnel. Apprends-nous ces leçons, nous en avons besoin. Nous avons besoin immensément de ta grâce et de ton esprit. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, ta parole, c'est une merveille. Ta parole, elle est admirable. Et nous voulons, Seigneur, tout simplement le reconnaître au fond de notre cœur. Qui peut prétendre, en effet, Seigneur, être comme tu désires que nous soyons? C'est vrai, parce que nous avons nos émotions nous-mêmes. Nous avons nos désirs, bons et mauvais. Nous avons, Seigneur, nos contrariétés. Nous avons nos espérances, nous avons nos aspirations. Mais Seigneur, qui est Dieu? Est-ce que c'est nous, c'est toi? Et nous sommes qu'en effet, Père éternel. Eh bien, des hommes souvent misérables, Seigneur, dans le tréfonds de nos âmes, avec des mouvements qui ne sont pas des meilleurs. Mais néanmoins, Seigneur, tu nous as appelés à travers l'Évangile à ressembler à Jésus. Parce que tout ce que nous avons dit ce matin, David est une préfiguration de Christ. C'est lui qui a été, en effet, en quelque sorte, qui a pu annoncer le Messie pour Israël et le Sauveur de tous les hommes. Alors nous croyons que si David n'était pas parfait, loin de là, en tous les cas, Jésus-Christ, lui, est parfait. Et il nous a ouvert la route, il nous a montré l'exemple pour que nous soyons à sa ressemblance. Tu bénis ton Église, tu me bénis, Seigneur. Tu bénis chacun d'entre nous. Donne-nous d'être des hommes spirituels qui vivons de la grâce et de la grâce découle toujours l'amour. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.